Donc, nous allons reprendre. C'est la première table ronde de la journée, animée donc par Françoise Gadet et moi-même, donc avec les interventions de Sonia Branca, Véronique Traverso, François Perea et Daniel Véronique. Nous allons faire un cadrage des objets de la table ronde et ensuite nous donnerons la parole aux quatre intervenants. Voilà, je donne donc la parole d'abord à Françoise.
Vraiment juste un mot avant de faire parler nos invités. Alors, je vais repartir du numéro tel qu'il a été publié. Pour dire qu'il n'y a pas, le titre de la table ronde étant, je ne sais plus dans quel ordre, données, terrain, corpus ou autre, peu importe, aucun article du numéro n'est majoritairement ou entièrement fixé sur la question des données. Toutefois, vous avez dû remarquer que c'est une question qui est absolument partout. Et donc, on peut trouver des thèmes communs à tous les articles dans la réflexion sur avec quelles données en faisant quoi avance-t-on en sociolinguistique, en analyse de discours et dans toutes les autres disciplines représentées dans notre revue. Tous les articles, ou pratiquement, supposent, je pense, qu'une réflexion sur le terrain a été menée en amont c'est de ça que nous allons parler maintenant. Alors, moi, il m'a semblé que deux points pouvaient représenter à peu près les deux points qui traversent les disciplines, donc qui sont partagés vraiment par tout le monde. Deux points peuvent être poursuivis. L'un concerne les technologies, leur évolution et les possibilités qu'elles ouvrent. On sait tous, je vais dire quelque chose de très très banal, le rôle qu'a pu jouer, qu'ont pu jouer les appareils d'enregistrement et surtout leurs modifications au fur et à mesure devenues portatifs puis portables, les appareils d'enregistrement dans la description des versions orales des langues et tout particulièrement et de plus en plus dans les versions ordinaires. Langues parlées, enfin dans les événements discursifs ou langagiers ordinaires. Donc, aucun doute sur l'importance des technologies. Je vais évoquer une citation que j'ai trouvée récemment. Il s'agit d'une toute petite phrase des éditeurs de la série dans laquelle est paru un livre de Blomart, livre de 2013, qui s'intitule « Ethnography, Superdiversity and Linguistic Landscapes ». Ces éditeurs de la revue, parmi lesquels il y a Alistair Penny-Cook, je ne cite que lui parce que les deux autres, je ne les connaissais pas. Leur citation porte sur les outils de recherche dont le chercheur dispose, avec l'exemple, à cause des linguistic landscapes, évidemment, il s'arrête particulièrement aux petites caméras digitales dont on dispose à l'heure actuelle. La toute petite citation, la voici en français. Pas besoin d'interview, d'ethnographie, de notes de terrain, de transcription, de traduction. Il y a juste à presser un bouton, charger, insérer et c'est fait. Alors, évidemment, comme Penny-Cook n'est pas un imbécile, il est clair que ça n'est pas à prendre... qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à ce que ça a l'air de dire immédiatement. Ça me rappelle les grandes citations comme « La femme n'existe pas chez Lacan ». Et évidemment, tout le monde regarde ça en disant « Ben si !» Alors, il n'est donc pas en train de nous dire que des gestes purement techniques suffisent pour faire de la sociolinguistique. Donc, ce dont il s'agit, je pense, d'ailleurs il ajoute tout de suite que si c'était le cas, ça serait trop facile, j'ai interprété cette remarque comme une proposition de réfléchir à l'intrication de plusieurs gestes, les parts de la technique, d'une connaissance préalable d'un terrain, de l'implication personnelle sur un terrain, mais aussi de l'appui pris sur des réflexions effectuées par d'autres chercheurs dans d'autres sciences sociales, qu'il s'agisse d'enquêtes ou d'archives. Et puis le second point, en miroir, ce sont les catégorisations antérieures à l'arrivée du chercheur sur un terrain, les catégorisations avec lesquelles on aborde le terrain, qui permettent de préparer ce qu'on va chercher et qui supposent une voie étroite, parce que si on en a trop, on ne voit rien, mais si on n'en a pas, on ne voit rien non plus. Ou alors on reproduit, on l'a vu en particulier dans un certain nombre de constitutions de grands corpus, on reproduit ce qu'ont fait les chercheurs antérieurs sans toujours savoir pourquoi on pratique tel ou tel geste. Et avec toujours le risque évidemment de passer à côté de beaucoup de choses. Donc la question c'est avec quel bagage de catégories, quels présupposés se présente-t-on sur un terrain ? Et ici aussi, il me semble qu'il y a une intrication tout à fait riche entre méthodologie et les catégories théoriques qui les précèdent. Voilà, je passe rapidement la parole à Luca.
Merci. Donc, moi, je vais énumérer, mais je suis sûr que de toute façon, les intervenants vont y revenir dessus, à ce que je pense être quatre importantes nouveautés auxquelles nous assistons en sociolinguistique, analyse du discours, anthropologie linguistique et linguistique interactionnelle, les domaines couverts par la revue, pour ce qui est en tout cas des données, des méthodologies qui constituent effectivement l'objet de cette table ronde. Alors la première nouveauté qui me saute aux yeux, c'est depuis plusieurs années maintenant, la prise en compte de la mobilité des locuteurs. Les locuteurs ne sont plus des êtres statiques, sédentaires, et à la prise en compte de la façon dont ils traversent les espaces, tracent de nouvelles trajectoires, dessinent de nouvelles frontières par leur pratique, tout en étant contraints par elles. Cela a donné lieu donc à un nouveau type de données, à des nouvelles ethnographies, des ethnographies multisites, à des suivis sur une personne tout au long de par exemple de sa trajectoire, et à des conceptualisations nouvelles de l'espace, à ses rapports avec le langage et à l'émergence de nouveaux domaines d'études, de nouvelles articulations, notamment entre le border studies et la sociolinguistique. La deuxième nouveauté concerne une interrogation nouvelle du concept de locuteur, ou plus généralement d'acteur social. Je pense aux travaux sur le cyborg en philosophie des sciences, en études de genre, à l'idée d'un sujet transhumain, composé de technologies, d'objets, d'artefacts, qui va déboucher sur des nouvelles démarches ethnographiques, mais aussi un sujet animal, à la question de l'animalité devient essentielle pour comprendre les frontières de l'humain, pour reprendre un dialogue avec les éthologues et pour penser à des ethnographies inter-espèces. La troisième nouveauté porte sur la sensorialité. Si nos disciplines ont été longtemps logocentriques, elles ont été aussi longtemps focalisées sur lui et la vision. Maintenant, grâce à un usage de plus en plus important de la vidéo dans nos disciplines, on commence à avoir des données multimodales, aussi bien analyse du discours que linguistique interactionnelle ou en anthropologie linguistique. Et des recherches se font maintenant sur des nouveaux, enfin, sur des sens qui commencent à être explorés, je pense au goût, à l'olfact, au toucher. L'émergence de food studies et une attention particulière aux pratiques alimentaires et à leur relation avec le langage et une focalisation sur la dimension tactile de l'intersubjectivité participent de ce renouveau. Et enfin, le genre, la sexualité, le sexe, longtemps restés cantonnés aux marges de la discipline, commencent aujourd'hui, en France en tout cas, à être pleinement représentés. Cela donne lieu à de nouveaux terrains, à des terrains sensibles, impensables il y a quelque temps, à l'intégration de nouvelles méthodologies intersectionnelles permettant par exemple d'articuler la race, le genre et la sexualité entre autres. L'émergence de ces nouveaux objets, de ces nouvelles données, de ces nouvelles méthodologies appelle à une nouvelle façon de penser l'articulation entre le niveau socioculturel, interactionnel et linguistique, non plus en termes de niveau articulé, mais dans le cadre d'une vision holistique dans laquelle chaque palier informe et structure l'autre et vice versa. Un dialogue plus poussé entre les sciences humaines et sociales et par exemple les sciences médicales et cognitives, c'est déjà le cas dans de centres comme le Max Planck, mais c'était aussi le cas pour des projets tout à fait innovants comme celui sur les familles et les pratiques alimentaires à UCLA avec les Norox. Et enfin, je pense aussi, et ça reprend l'exposé de Josiane Boutet, aux pensées critiques qui connaissent aujourd'hui un véritable renouveau grâce aussi à un contexte politique à la fois inédit et dramatique et qui irrigue à nouveau, nous l'espérons et je le souhaite en tout cas, la sociolinguistique et l'analyse du discours. Donc nous donnons maintenant la parole à nos intervenants et c'est au tour donc de Sonia Branca.
Merci. J'ai un tout petit peu hésité à accepter l'invitation de Josiane quand elle m'a proposé de prendre la parole à cette table ronde parce que depuis quelques années, j'ai de nouvelles activités et j'ai donc fort peu ouvert de nouveaux chantiers. En particulier, en écoutant Luca, je me disais, mais mes objets de recherche qui ne sont pas totalement clos doivent paraître absolument désuets. Donc, tout au plus, j'essaierai de faire deux ou trois remarques pour vous dire que ces terrains que j'ai pratiqués et que je suis en train de clore lentement ne sont pas totalement épuisés. Du moins, j'espère qu'ils peuvent amener à se poser encore quelques questions. Or, si j'ai accepté, je dois dire que c'est essentiellement pour la joie de fêter l'anniversaire de Langage et Société, à la fois parce que c'est formidable d'avoir une revue qui soit aussi active et riche et ouverte sur l'avenir au bout de 40 ans, et puis en souvenir de l'aventure collective. Alors ça a été rappelé très bien par Josiane ce matin, enfin l'aventure qui a débuté autour de Pierre Achard, à un moment où passer du temps à lire, à éditer des papiers de travail ne rapportait pas grand-chose, sinon rien, en termes de carrière universitaire. Hein. Tu disais ? Moins que rien. Oui, j'ai hésité sur le moins. Mais en même temps, hein, la revue existe maintenant comme une revue de référence pour un ensemble de disciplines qui vont, comme ça a été dit, de la sociolinguistique à la sociologie du langage, à l'analyse de discours. Et je voudrais remercier Josiane qui a su prendre ce tournant en maintenant un équilibre délicat entre une perspective de critique sociale, peut-être pas aussi présent qu'on aurait pu le souhaiter dans les articles de la revue, bien qu'il y ait, puis l'intervention de Luca Greco va tout à fait aussi dans ce sens, et puis une volonté qui est quand même plus académique de questionnement des frontières disciplinaires. Et c'est seulement comme ça l'idée qu'on a que le dévoilement de l'analyse a toujours une portée critique qui amène à faire le pont entre les deux sens de critique. C'est un rhétoriquement, ça marche très bien. Je ne suis pas sûre d'être entièrement convaincue de l'égalité. Alors, mes quelques remarques maintenant. Je commencerai par évoquer les corpus de lettres de soldats de 14-18 recueillis autour d'Agnès de Cartes sous le nom de Corpus 14, et puis je ferai aussi deux petites remarques autour du corpus CFPP 2000. Alors pourquoi je rappellerai l'existence de Corpus 14 et au-delà d'autres corpus du même type, parce que évidemment l'histoire est la grande absente du numéro 160, et je le regrette d'autant plus que Jacques Guillaumou a été longtemps un compagnon de route important de la revue. Je voudrais prendre non, mais il y a d'autres historiens tout de même. Alors, je voudrais repartir du bel article qui a été évoqué tout à l'heure par Ruth Amossi, article de Philippe Ambi, qui évoque les pratiques langagières écrites d'élèves de milieux populaires, et en particulier ceux dont le profil est, selon son terme, formaliste. Et il donne un joli petit exemple, une élève qui produit un énoncé comme « le but de vous demander une demande d'un voyage ». Une élève, alors les enseignants ont tendance à expliquer par l'origine turque de l'élève c'est les erreurs, et Philippe Ambis dit que selon lui, le problème est surtout que l'élève ne comprend pas le sens de l'exercice et croit, je le cite, qu'il s'agit seulement de se plier à un jeu formel indépendant de tout but communicationnel. Et il renvoie à des pratiques d'apprentissage inadéquates qui ne sont pas assez centrées sur les enjeux effectifs. Je crois que le terme est aussi de lui, des tâches scolaires. Alors je pense que confronter ces corpus scolaires d'élèves mal à l'aise avec la littératie, avec les corpus de ceux que j'ai proposé jadis d'appeler des peu lettrés, lorsque au cours du 18e et du 19e siècle, la capacité de lire et d'écrire s'est répandue dans les classes inférieures, confronter donc ces corpus est une entreprise nécessaire et intéressante. Et cette mise en perspective historique est aujourd'hui facilitée parce qu'il y a de nombreux corpus recueillis en France et un peu partout. Les poilus corpus 14, mais également on peut penser aux chantiers ouverts par France Martineau, micro, variation et épistolarité, qui a tout un corpus de français familier ancien à Montréal. On peut penser à des projets comme le corpus historique du substandard français dirigé par Harald Thun à l'université de Kiel. Et j'arrête, mais il y a en Italie, dans l'ensemble des pays d'Amérique latine, des chercheurs qui travaillent sur ces collectes de données et sur leurs analyses. Alors pourquoi ça me paraît intéressant? Eh bien, parce qu'on s'aperçoit assez vite qu'il y a au fond deux types de stricteurs. Il y a ceux, les plus nombreux dans mon expérience, qui ont recours en particulier à l'ouverture, à la formature des lettres, à un cadre extrêmement rigide, même s'il comporte des variations, et qui est caractérisé par une syntaxe complexe, une syntaxe avec de nombreuses subordinations, par exemple, et des termes également qui sont des termes du français choisi, on va dire. Alors, un exemple, bien chers parents, je viens en deux mots de vous faire savoir l'état de ma santé, laquelle se trouve fort bonne et désire de grand cœur que vous soyez tous de même. Et ça peut continuer comme ça, il y a des dizaines de lettres sur ce modèle. Ce formalisme, ce qui est intéressant, c'est qu'il est en décalage complet avec les manuels scolaires qui les ridiculisent, qui donnent des exemples ridicules du même type, et avec les modèles de rédaction qu'on trouve dans les cahiers de l'époque. Et donc, on peut se demander si ce n'est pas quelque chose de plus profond, une manière d'entrer dans la littératie présente dans les classes populaires. Si j'avais du temps, je passe, j'expliquerai comment les classes supérieures en sont sorties à une date relativement tardive. Donc, l'appel à l'histoire sur des points qui concernent des corpus contemporains, parce que, me semble-t-il, ce dialogue peut nous apporter quelque chose. Deux mots maintenant. J'ai combien de temps ?
5 minutes.
Alors, deux mots. Ça sera deux, sur les corpus oraux. Donc, CFPP 2000, il me semble que le numéro ne fait pas assez de place au thème de l'accès aux corpus, de la conservation de ces corpus, les stockages dans les grandes banques de données, les traitements par des logiciels compatibles. Personnellement, je suis persuadée que les corpus qui survivront sont les corpus outillés qui font appel à des concordanciers et qui donnent la possibilité de requêtes, au moins sur les parties du discours. Si je comprends bien, ma voisine de droite va au moins en partie évoquer ce thème, donc je vais passer. J'avais prévu de vous parler des problèmes que cela pose, parce que les solutions que les informaticiens présentent comme techniques et neutres présentent les objets, transforment profondément les objets que nous matérialisons avec les transcriptions. Alors, je n'ai pas le temps de développer des exemples concrets des batailles perdues contre les informaticiens, mais peut-être qu'on pourra en reparler dans la discussion. Je donne un tout autre exemple qui vous parlera. L'enjeu des métadonnées, c'est un enjeu essentiel. Or, nous sommes aux prises avec des standardisations extrêmement difficiles. Que signifie, par exemple, un niveau d'études quand on dit bac plus 3? Est-ce que bac plus 3 des années 70 a le même sens que bac plus 3 de 2017, etc. Je passe. Dernier exemple. J'ai eu l'impression, puisque CFPP 2000 est un ensemble d'interviews conversationnelles, d'avoir un objet critiqué au profit de corpus qui ne serait pas sollicité par des enquêteurs au nom de données naturel. Alors, je voudrais dire d'abord que mon expérience de multicorpus est que l'opposition essentielle, si on travaille par exemple sur la syntaxe, sur le vocabulaire, passe plutôt entre données qui parlent sur l'action et qui ne l'accompagnent pas. Alors, évidemment, les interviews conversationnelles, mais beaucoup d'autres activités dites naturelles, des groupes de conversation, etc., et données prises dans l'action. Et que peut-être les oppositions ne sont pas forcément là où on veut absolument les placer, au long de la nature et de l'anthropologie. Et alors, ce que je voulais dire, c'est que notre expérience des données de corpus 2000 est, par exemple, fort intéressante. Je laisse de côté la syntaxe, je dis juste un mot sur les problèmes de désignants. Pendant une heure ou deux heures, des personnes parlent de la société dans laquelle ils vivent, ils la décrivent, ils en construisent une version acceptable pour eux-mêmes et pour l'enquêteur. Et ils sont amenés, ce faisant, à s'arrêter dans leur vie et à réfléchir sur leur trajectoire, et notamment en termes d'identité. Et dans ces corpus, ils passent leur temps à situer des catégories sociales les unes par rapport aux autres, en insistant tantôt sur la connivence, tantôt sur les oppositions. Alors là aussi, puisqu'on m'a dit deux minutes, je serai sage, je ne vous donnerai pas d'exemple, peut-être on pourrait en reparler dans la discussion, mais si vous voulez, ça ouvre des problèmes fort intéressants sur l'importance des désignants ou pas. Est-ce que les désignants sont tellement importants, ou est-ce que les grands mouvements argumentatifs qui opposent des « ils » ou des « eux » et des « nous » ne sont pas à prendre en considération de façon beaucoup plus large. Donc, c'est une question un petit peu ouverte, hein, qui appelle cette fois au travail collaboratif. Ça tombe bien, Ruth Amossi a pris la parole tout à l'heure, avec les gens qui travaillent sur l'argumentation. Voilà, je m'arrête.
Merci beaucoup. Donc maintenant,
je vais
donner la parole à Daniel
Véronique. Merci. Quand j'ai été invité à participer à cette table ronde, je veux dire que j'ai accepté volontiers, non pas parce que je pensais que j'avais des choses essentielles à dire, mais un peu par reconnaissance pour l'engagé société et tout ce que j'ai appris avec ce groupe, hein, depuis déjà fort longtemps. Je voudrais dire également que je n'ai pas lu le thème données, corpus, terrain exactement comme les animateurs, donc j'ai abordé les choses de façon un peu oblique, et en vérité j'ai pensé que je parlerais de deux terrains, d'une part d'une pratique ancienne à la fois comme acteur social et aussi comme linguiste auprès de travailleurs marocains, maghrébins en général, d'enquête, dont une enquête sur l'acquisition assez longue. Et puis par ailleurs, évidemment, mon travail en tant que locuteur d'une langue créole, linguiste créole dans des sociétés créoles. Alors j'ai rappelé effectivement cette double appartenance dans les deux cas, d'une part étranger un peu quand même auprès de Marocains, et puis évidemment locuteur issu d'un pays créolophone dans des situations créolophones, parce que la question qui m'intéresse pour le petit quart d'heure là que j'ai, c'est essentiellement de réfléchir avec vous, donc c'est une lecture un peu particulière du thème, sur la question de la production du sens social, à la fois par des linguistes, et aussi par des acteurs sociaux, et de la rencontre entre les catégorisations des acteurs et des catégorisations plus savantes qui ont été évoquées dans différentes interventions. Alors, j'ai trois points que je vais essayer de traiter dans les 15 minutes. Un premier point concerne précisément à partir... Alors, je voudrais dire en passant, évidemment, que j'ai trouvé le numéro Langage et Société tout à fait riche. Je ne citerai pas tous les articles, mais j'ai été très inspiré, aussi bien par l'article de Josiane, par l'article de Dominique Magno, par l'article de James Costa qui m'a bien plu. Enfin, bon, on ne va pas décerner les prix, mais... Et bien sûr, je vais réagir, en fait, par rapport à l'article d'Isabelle Léglise qui traite centralement de mon sujet. Alors, vous verrez que mon propos peut être un peu polémique. Bon, Isabelle n'est pas là. Mais, oui, non, mais je ne sais pas. Voilà, ça paraîtrait un peu polémique. En principe, c'était plutôt pour dialoguer avec elle. Alors, si vous voulez, le premier point, donc, c'est effectivement une réflexion sur les pratiques langagères en pays créolophone et sur, je dirais, la production de concepts pour en parler. Alors, Isabelle L'Église évoque, par exemple, la notion de « Global South ». Ça me paraît déjà une formule un peu chicosse qui me gêne. Et utilise surtout une autre notion qui est très à la mode dans le monde anglo-saxon et qui est maintenant tout à fait répandue, qui est la fameuse notion de « translanguaging ». Qui est une notion pour laquelle les gens se font payer. Hein, je dis ça en passant, parce que j'ai eu à inviter l'un des auteurs de ces notions, et donc je sais ce qu'il en est. Alors, sur ces questions, je voudrais juste... Alors, on n'a pas trop le temps, mais je voudrais juste évoquer la question... Je voudrais d'abord évoquer un souvenir, le souvenir d'Abdelmalek Sayad, qui a travaillé ici, donc, et qui, justement, à Vassivière, il y a fort longtemps, dans le langage des sociétés, a écrit un petit article où il dit deux choses. Je dirais avant la mode des pensées postcoloniales, où il disait d'une part, attention, ne nous exotisez pas trop, hein. Laissez-nous nos labia, disait-il. Et d'autre part, il disait aussi, il y a des pratiques que nous ne connaissons pas. Il a par exemple mis en lumière la façon dont des audiocassettes circulaient entre le Maghreb et la France pour la correspondance familiale. Et en se positionnant, et c'est la question qui m'intéresse en fait, d'un double point de vue, à la fois comme appartenant à la communauté, et d'autre part, en tant que chercheur devant produire pour une autre communauté du sens social, hein, pour revenir à la question du sens social. Donc c'est un peu dans cet esprit-là que je voudrais évoquer avec vous rapidement des exemples qui concernent des pays créolophones. Alors trois exemples, je pense que je n'aurai pas trop le temps, au moins deux exemples tout à fait parlants. Je vous rappelle, vous le savez évidemment, qu'en 2009, en Guadeloupe, il y a eu un mouvement qui s'appelait « Lionnage contre... Profitation », qui était un mouvement de protestation sociale contre l'octroi de mer, hein, donc des taxes qui renchérissent la vie en Guadeloupe et même dans tous les départements d'outre-mer. À cette occasion, on a vu apparaître, évidemment, une émergence des langues créoles qui est tout à fait intéressante. Hein. D'abord, déjà, le nom, « Lionnage contre profitation ». Ensuite, le slogan de ce mouvement était un slogan en créole. Donc il y a une émergence. Hein, une émergence, et cette émergence des créoles, elle n'est, qui est d'acteurs et de syndicalistes, essentiellement, elle n'est pas, d'une part, elle doit être mise en rapport avec tout le travail accompli à peu près à la même période par un groupe de recherche universitaire, dont l'un des fondateurs vient de mourir, Jean Bernabé, le groupe du GIREC, qui, par un travail différent, donc j'essaierai de revenir là-dessus, avait fait émerger aussi une conscience autour de la question du créole. Donc, Lionnage contre profitation, le créole apparaît, et le créole en Guadeloupe, dans ce contexte, évidemment, s'oppose à la question du français, comme on l'imagine. Très récemment, c'était cette année même, est apparu en Guyane un mouvement pour la Guyane décollée, mouvement initié par les fameux 500 frères. C'est un mouvement qui a eu lieu juste avant l'élection présidentielle, en mars-avril, qui était un mouvement qui était de revendication également économique. Mais le contexte de la Guyane n'est pas le contexte... Alors là aussi, on a vu émerger, évidemment, le créole. On a vu un officier de police qui s'appelle Mancé, qui est aussi un chanteur de rap, chanter un rap que je ne pourrais pas vous chanter en créole à propos de... Parce que je n'ai pas son talent, simplement. Hein, à propos, justement, de cette opposition entre nous et vous, enfin, nous, la Guyane, et vous, le reste... Mais vous, le reste, ne veut pas dire forcément la France, la République française. Vous, ça veut dire aussi les autres créolophones qui sont en Guyane. Alors, bon, j'aurai un troisième exemple, mais je ne vais pas le développer, qui est la question de l'introduction du créole à l'école publique, dans la République nationale, enfin, la République mauricienne. je ne les développerai pas, mais simplement ce que je voudrais dire, c'est que si on regarde ces trois exemples d'émergence des langues, deux remarques peuvent être faites. D'une part, on s'aperçoit évidemment que les acteurs sociaux ont des stratégies, ou des tactiques, hein, comme on veut, ont des stratégies qui sont aussi des stratégies linguistiques. Ils ont donc, pour rejoindre l'article de James Costa, il y a donc un travail idéologique autour de la langue. Et d'autre part, ces acteurs n'ignorent pas les réflexions savantes et autres qui ont pu se faire à l'université dans un autre contexte, avec évidemment, je dirais, une contradiction dans ce domaine, une contradiction entre ces différents mouvements. Et par ailleurs, je voudrais dire que si maintenant, donc ça c'est ma petite critique à l'égard de la notion de translanguaging, si tout d'un coup maintenant nous disions, en Guyane, en Guadeloupe, nous sommes dans des situations de translanguaging parce qu'effectivement, deux langues au moins sont en présence pour la Guadeloupe et en Guyane, de nombreuses langues, dont plusieurs créoles, dont des créoles à base anglaise, qu'on appelle bushidengue, mais en fait c'est plus compliqué, hein, il y a 4 ou 5 variétés. On aurait faux, le concept ne serait pas bon. Parce que dans le fond, l'opposition, il faut entendre l'opposition des 500 frères qui parlent créole français en Guyane aussi comme une opposition contre les Haïtiens, contre tous les bushidengués qui viennent de Suriname et qui sont des clandestins. Donc là, je dirais simplement, cette notion de translanguaging est un leurre pour penser la question du rapport justement entre les catégories des acteurs et les catégories savantes que nous voudrions faire émerger. Sur l'exemple mauricien, la seule chose que je voudrais dire simplement, c'est que si moi, mauricien d'origine, je vais enquêter à Maurice, je l'ai dit à plusieurs reprises ici, mais je le redis, la première question qui viendra à l'esprit de mon interlocuteur, c'est de quel groupe ethnique est-il ? Et à partir de là, les réponses que j'obtiendrai seront fonction de la vision que l'autre a de mon groupe ethnique ou de ce qu'il veut me faire dire. À tel point que je me suis même rendu à cette idée que, dans le fond, il est très difficile de faire des enquêtes linguistiques à Maurice quand on est mauricien, mais il est aussi très difficile de faire des enquêtes linguistiques quand on n'est pas mauricien, parce que, évidemment, on peut se tromper sur les catégories natives. Alors, ça m'amène à mon deuxième point qui était justement... Oui, 5 minutes. Ça m'amène à mon deuxième point, qui sera peut-être mon troisième point également. Donc, ce deuxième point, c'est justement la question du positionnement, hein, du positionnement du chercheur sur ce terrain, puisque, dans le fond, je demeure persuadé qu'évidemment, il faut être situé dedans, en quelque sorte, pour pouvoir mener une enquête sur le terrain, mais il faut être aussi situé dehors, parce que, dans le fond, le discours que je construis, pour reprendre le terme de sens social que je construis, est un sens social qui n'est pas forcément automatiquement pour les acteurs de terrain, même si on voit bien qu'il peut avoir des liens, comme j'ai dit, pour la Guadeloupe et LKP, mais c'est un sens que je construis pour une communauté extérieure. Donc c'est la question, je dirais, de l'inscription sur le terrain et de la question de la gestion de l'altérité. Moi, je plaide volontiers pour l'idée de développer un regard de type ethnologique. La référence qui m'a traversé l'esprit, mais c'est un parmi 1000 références, c'est le texte que vous connaissez de Paul Rabinoff, un ethnologue au Maroc, qui est une remarquable démonstration de la question de la construction de la distance dans l'enquête. Et ceci me conduit, alors pour essayer de rester dans les temps, à un troisième point qui est enquêteur sur le terrain. Je suis aussi, et c'est une thématique qui traverse différents papiers, je suis aussi quelqu'un qui, dans le fond, n'a jamais renoncé, un peu comme Sonia sans doute, à travailler sur des marques linguistiques. Donc, dans des polémiques diverses, j'ai pu être traité, mais pas le seul, comme étant un technolinguiste, ce que j'accepte très volontiers. Parce que, dans le fond, je dirais, le travail qui est posé, la question que je me pose, c'est comment fait-on le chemin des marques linguistiques à leurs effets sociaux,
Hein. Et je vais vous donner deux ou trois exemples et je vais m'arrêter. Donc, on est bien, pour me rattacher au thème, on est bien dans des questions de corpus et on est bien dans des questions de terrain. Quand je parle de créole guadeloupéen ou martiniquais, je peux dire, pour désigner le terme travail, soit djoubac. Pour désigner un serpent, je peux dire bête longue ou serpent. Si je dis djoubac au sens littéral, ça veut dire que c'est un travail très intensif. Mais si je suis, par exemple, travaillé par l'idéologie du GIREC, donc adhérent à l'idée d'une déviance maximale, djoubac veut dire simplement travail. Et djoubac, effectivement, ne ressemble en rien à travail. Et pourtant, nous savons que les langues créoles ont 90% de leur lexique à peu près qui viennent du français. Bon. Ceci pour dire qu'il y a donc ce... Quand, en tant que descripteur, je dois être sensible à la fois à ce travail sur la langue et à ce travail des locuteurs eux-mêmes. Dernier petit exemple, et je m'arrête, c'est un très joli exemple. En créole mauricien, il y a deux formes pour le génitif. On peut dire « Paul sau papa », j'ai déjà cité cet exemple ici, et « papa Paul ». Très bien, la langue connaît une variation. Sauf que cette variation est habitée, si je puis dire, par les locuteurs, parce que « Paul sau papa pa, », qui passe pour être une forme qui est parlée par les gens qui sont issus de l'immigration indienne. Tandis que les vrais créoles, comme moi, eux, ils disent « papa Paul ». C'est assez curieux. Donc, je dirais, en tant que linguiste sur le terrain avec des données, je ne peux pas me contenter de dire qu'il y a juste une variation de SN. Je dois regarder cet effet-là et je dirais, c'est là que je situe mon intervention.
Voilà, bien. Je vais poursuivre un petit peu la chaîne en commençant, comme mes camarades, par le sentiment que j'ai eu lorsqu'on m'a invité. Je me suis tout simplement dit, il va falloir bien faire. Et donc, je vais rappeler les deux questions qui m'ont été posées comme un bon élève. Et je m'appliquerai à ne pas y répondre parfaitement. Mais d'autres ont pris ces précautions oratoires avant moi. Donc, la première question qui nous a été posée, c'était de savoir si le bilan tel qu'il apparaît dans le numéro anniversaire correspond bien à l'évolution des domaines de recherche. Et je vais commencer de manière très large et on verra par la suite. J'espère que je rebondirai sur des échanges qui ont eu lieu ce matin. Sur un plan d'ensemble, il me semble caractérisé par, d'une part, une dispersion et en même temps une union. Cette dispersion, elle est fondamentale, on la voit depuis le début de la revue. Elle n'est pas une simple variation, hein. Il y a véritablement des dispersions, des objets d'études, des approches et parfois même des incompatibilités. Et on se tromperait à supposer une unité ou une compatibilité de toutes ces approches. Ce n'est pas grave, hein. Mis à part la vanité des écoles et des disciplines qui, par nature, sont aussi utiles que passagères, il n'y aura pas trop d'incidence à l'avenir. Ce dispositif, il pose, pour reprendre les titres de ce numéro, les titres des deux grandes parties, une pluralité féconde, des débats, des problématiques, des émergences et des questions vives qui font que, bien justement, tout discute et qu'il n'y a pas d'objet désuet et que, voilà, ils sont tous ensemble embarqués autour d'une même unité pour, voilà. Il y a eu, à défaut d'avoir plutôt une unité illusoire, le dernier numéro témoigne de la permanence de l'union et Josiane Boutet précise bien, dès son introduction, le flou productif de la conjonction « et » dans la revue. Donc cette union, pendant que je suis interpellé par ceux que je vais essayer de démontrer tout à l'heure, cette union, il me semble qu'il est important de s'en souvenir, de se souvenir qu'il y a une évidence qui nous réunit en des temps où l'informatique et le numérique sont parfois et par erreur confondus avec une réduction formelle, nécessaire aux algorithmes mais pas forcément aux humains. C'est la complexité des faits sociaux et des êtres peu réductibles qui constituent le cœur du langage et les phénomènes langagiers. Se confronter à cette complexité frustrante, car finalement toujours insaisissable, fait notre trait d'union, parfois dans un rapport critique, et ça a été rappelé ce matin, me semble-t-il. Donc ce débat sur le lien qui nous unit, c'est-à-dire le social comme trait d'union entre les différents phénomènes langagiers, c'est que cela implique, c'est une forme d'épreuve de la réalité, appréhendée diversement, mais appréhendée tout de même, et qui nous réunit. à chaque fois, que ce soit dans une conception du social comme objet de recherche, appréhendé à travers la langue et le discours, ou le social comme intégré à la dynamique de recherche dans ce numéro. C'est le cas avec Cécile Canu et son anthropologie filmique, c'est le cas avec Lucas Gréco, le performeur des sciences du langage, et c'est le cas aussi avec le numérique, et je vais y revenir. Alors c'était sur un plan d'ensemble. Sur le plan personnel, moi je dirais que l'évolution, il y a deux éléments qui sont importants. Le premier, c'est le numérique, excellemment représenté dans ce numéro par Christine Develotte et Marianne Pavot, avec lesquelles on voit que le numérique, c'est pas le web, c'est pas du virtuel, et c'est un phénomène de civilisation dont nous devons nous en saisir. Je pensais tout à l'heure à ce que disait Stigler à la suite de Leroy Gourhand, que d'accord, l'homme fait des objets, des outils, des techniques, on en parlait tout à l'heure, mais que les techniques, elles font aussi les hommes, et donc les sujets parlants, et donc aussi les sociétés. Et que s'il y a un sujet qui est au cœur aujourd'hui de langage et société, pour moi hein, évidemment, mais comme chacun d'entre nous, je suis toujours persuadé que mes objets d'études sont les plus importants et essentiels à l'avenir de la discipline et du monde, c'est bien évidemment le numérique. Et l'autre, c'est le corps, parce qu'il y a des sujets parlants et parfois ils ont de la chair autour. Et Lucas Gréco a eu la bonne idée de rappeler aussi qu'il pouvait même avoir des fantasmes, voire des relations entre eux qui impliquent des contacts de peau. Et je crois que c'est bien que ces dernières années, les linguistes aussi se soient intéressés au fait des sujets parlants. Voilà. Alors, c'était la première question. Donc, vous avez vu que je n'ai pas du tout répondu, mais j'ai essayé de faire semblant. Le second point, à votre avis, de quelle façon, je cite Lucas Gréco, à votre avis, de quelle façon les pratiques d'enquête, de collecte de données, d'établissement des corpus sont influencées par les changements sociaux et politiques actuels? Deux points, numérique, virgule, et puis il y avait d'autres choses, mais moi je me suis arrêté à numérique parce qu'il n'y avait pas trop le temps. Il me semble qu'un des aspects les plus remarquables de l'évolution des corpus est lié justement au numérique. D'abord, premièrement, le numérique comme moyen, qu'il s'agisse de la facilité de collecte de données sur le terrain, avec la disponibilité et la miniaturisation des dispositifs d'enregistrement, par exemple, ou qu'il s'agisse de la facilité d'accès à des productions aisément copiables, collables, depuis Internet, par exemple. On n'a même plus besoin de recopier les journaux, on peut directement, d'un clic de souris, en avoir une foultitude d'exemples. La facilité d'accès et la collecte font que ces données ont pour incidence la nécessaire utilisation du numérique aussi pour le traitement de ces données, leur mise à disposition et leur partage scientifique, qui autorise de nouveaux modes de collaboration et des discussions scientifiques. On a évoqué ce matin les carnets de recherche, on peut évoquer aussi les recherches bibliographiques qui ont lieu sur Internet. Il y a Noémie Marinier là-bas qui, souvent sur Twitter, renvoie, il y a besoin d'un article sur ce sujet, il y a quelqu'un dans le monde qui lui envoie ou elle lui envoie. C'est des choses qui me fascinent parce qu'en plus je ne sais pas trop bien les faire. Parfois, le moulinage numérique vaut dans une acception très restreinte des humanités numériques, dont il faudrait démonter aujourd'hui la pertinence, mais on n'a pas le temps. Parfois, ce moulinage numérique vaut pour appareillage théorique. La statistique et le calcul des phénomènes langagiers, devenus data et si possible big, constituent les horizons de la découverte, mais cela reste ou devra devenir marginal, et nous ne pouvons que désirer ici, entre langage et société, que ce mesurable ne reste qu'une chimère, parce que l'imprimeur n'écrit pas le livre. L'une des incidences des liens entre corpus et numérique concerne d'abord en particulier les questions d'éthique, avec l'évolution des textes de loi, des institutions de surveillance telles la CNIL, les guides des bonnes pratiques, celui d'Olivier Baude, et des débats autour de l'éthique, comme certains chercheurs estiment qu'en même temps que ces pratiques qui apparaissent avec le numérique permettent de protéger les sujets et de cadrer les démarches scientifiques, et même qu'en même temps, parfois, elles peuvent rendre parfois difficile l'exercice de la science. Lorenza Mondada a pu écrire que le problème fondamental est posé par la contradiction éventuelle entre anonymisation et disponibilité des détails pour l'analyse. C'est vrai pour ceux qui travaillent sur les pseudonymes, par exemple. Et Alain Desclos a pu dire que si on limite la recherche aux seuls sujets qui donnent leur consentement pour y participer, bien la recherche elle est définie par des sujets plutôt que par les chercheurs, au risque de ne traiter que des sujets qui sont consensuels dans une société étudiée. Donc certains déplorent une éthique contre la science et Doucet, d'autres y voient l'occasion d'associer plus précisément, ce débat que nous avons eu, les sujets justement dans la recherche. Et l'un des mérites, voilà, une des incidences autour de ces questions d'éthique, c'est de renouveler et de remettre sur le devant de la scène un débat autour des pratiques et des méthodologies dans une perspective éthique qui ne sont pas du tout simples et pas du tout tranchées. Donc la réflexion, elle souligne des problématiques, des émergences, des questions vives, mais le numérique, ce n'est pas qu'un moyen de recherche, c'est aussi un objet de recherche, un objet qui est exigeant. J'ai rappelé tout à l'heure la satisfaction que j'avais de trouver un article consacré à ce sujet, écrit par Christine Develotte et Marie-Anne Pavot. Je ne vais pas revenir ici sur les différents éléments essentiels qui sont abordés, mais je me permets de pointer une exigence générale qui transparaît. Les corpus numériques, ce ne sont pas que de simples corpus en ligne, ils ne sont pas virtuels. Hein. Ils sont inscrits dans un processus civilisateur, j'ai dit tout à l'heure. Ces technodiscours, Pavot, qui sont inscrits dans une technogenèse, AIDS, peut-être à destination des technolinguistes, Véronique, je vais en rajouter suite à ton intervention, possèdent des qualités intrinsèques qui conduisent à des représentations et des exigences renouvelées du point de vue scientifique. Et dans cet article, la nécessité de penser différemment la nature des productions langagières dans des métiers technique, la nécessité de repenser la dimension relationnelle des productions numériques non linéaires, augmentables et innombrables, et la nécessité de penser de nouveaux corpus, les espaces croisés des conversations d'écran, l'abandon du logocentrisme ou la construction de nouvelles unités, les corpus idéonumériques par exemple. Il me semble que le numérique ici, j'espère que j'ai encore 2 minutes, j'arrive à la fin. 5, pooh, je suis large, donc je vais faire une petite pause, hein. Je vais boire un verre d'eau. Non. J'en arrive quand même au point qui me tenait à cœur. Il me semble que le numérique nous questionne véritablement sur les nouvelles conceptions du langage. Et peut-être, on l'a évoqué hier soir à table avec certains de ceux qui étaient là, la fin d'une forme de linguistique. Vous avez vu que c'était le moment polémique de mon intervention et peut-être ça alimentera les discussions. Cette vision numérique appliquée au langage propose une alternative. En effet, les linguistes connaissent aujourd'hui sur le terrain du langage, on l'a évoqué avec les sociologues, mais une concurrence accrue des informaticiens ou des infolinguistes. Hein, je ne dis pas des linguistes informaticiens. Hein. Nous en sommes réduits à une portion du phénomène, le langage naturel, qui fait le cœur de notre questionnement, nous est encore laissé à disposition, mais le reste est dévolu aux informaticiens. Je veux citer ici un extrait de Fogel et Patineau dans la condition numérique. Au plus loin des humains, on trouve les langages machines qui ne s'écrivent qu'avec des jeux d'instructions rédigeant les chiffres 1 et 0 que plus personne n'aligne directement à la main. Les langages assembleurs qui utilisent les lettres d'alphabet, les signes typographiques, les chiffres offrent une traduction plus maniable. Lisible pour les initiés, ils jouent le rôle d'intermédiaire vers les langages machines. Encore plus loin de la machine s'utilisent les langages évolués, les langages structurés, les langages compilés, etc. selon une terminologie qui différencie difficilement des catégories qui peuvent se chevaucher. Lisibles pour les humains avertis, ils sont traduits en langage assembleur tant leur code va vers la machine. C'est à la lumière de ces langages qu'il faut reconsidérer la frontière séparant les humains et les machines numériques. Et j'ajoute que la frontière, c'est aussi ce qui fait lien aujourd'hui. Et autour de ces langages, nous avons découvert depuis quelque temps que les objets aussi parlaient. En caricaturant, on pourrait craindre que ces traitements du langage se résument à une double opération. D'une part, une réduction des discours et des interactions à un texte encodable, in fine des traitements formels essentiellement lexico-sémantiques pour la partie discursive, auquel on rajoute une couche de traitement des indices vocaux pour les tours de parole, pour donner une dimension d'interaction lorsque les humains parlent avec Siri, Cortana ou que sais-je encore. Et une vision également du numérique comme outil de formalisation pour les sciences du langage, dont le rôle ne serait alors que d'édicter des règles qui pourraient être saisies par les algorithmes, et c'est la figure du linguiste codeur. Je caricature bien entendu, car je ne doute pas que justement, parce qu'il y a le « et » que l'on a évoqué depuis le début dans langage et société, l'alternative est posée à cette vision informatisée des sciences du langage. Et ce est justement qui me fait poser, ce sera ma conclusion, juste 2 questions. La première m'a été de fiction scientifique, de lieu de questionnement. La première m'a été pourrie il y a quelques minutes par Luca Greco, mais c'était autour de l'idée que l'homme, effectivement, n'est plus le seul sujet parlant aujourd'hui, et que lorsque l'on regarde autour de nous, on nous explique que pour la première fois peut-être dans l'histoire de l'humanité, on invite l'homme à parler à autre chose qu'un être humain en s'attendant à ce que cette autre chose lui réponde comme le ferait un être humain. Le slogan « Parler à Siri comme vous le feriez avec un ami ». Moi, lorsque je demande à mon téléphone d'appeler ma femme, il sait qu'elle s'appelle Aurore et il sait quel est son numéro, heureusement, parce que sinon, évidemment, il y aurait des quiproquos fâcheux. Mais en tout cas, il y a les figures du sujet parlant ici qui se déplacent, qui incluent des machines, des objets qui parlent, dans une perspective post-dualiste. Et Lucas a rappelé tout à l'heure la théorie du cyborg de Donia Haraway. Je crois qu'on a ici voilà, des vrais questionnements aussi sur ce qu'est parler, ce qu'est être un sujet parlant, sur ce qu'est échanger, au-delà de ce qui faisait évidence avant, c'est ce qui faisait un trait d'humanité. C'est plus forcément, en tout cas ça se rediscute aujourd'hui, et c'est pourquoi il ne s'agit pas d'opposer ce qui se faisait et ce qui se fera. Je pense que les deux doivent se faire pour justement pouvoir tenir les deux bouts du questionnement. Et la deuxième fiction scientifique, après celle du sujet parlant, c'est celle du langage qui poursuit, pour reprendre Roux, sa grammatisation vers la mécanisation, qui conduit à de nouvelles représentations, de nouvelles conceptualisations, le tournant iconique de Mitchell, qu'on aimerait voir comme tournant iconico-linguistique, et de nouvelles institutionnalisations. Et donc sur ce devenir du langage, pour terminer peut-être en disant que ce numérique n'est pas qu'un simple outil, transformera la manière dont on va concevoir le langage, au même titre que l'écriture l'a fait auparavant, ou l'imprimerie, avec les incidences sociales que l'on sait, et que donc, mais encore une fois, je reprécise mon point de vue complètement narcissique sur mon objet de recherche, je pense que le numérique, c'est pas juste un objet de recherche, c'est aussi un lieu de questionnement transversal pour nos disciplines, en lien avec les corpus, mais aussi avec les théories. Voilà.
Merci. Alors moi également, je vais dire que lorsque j'ai été invitée, je me suis sentie très honorée et que je suis très contente de participer à cet anniversaire. J'ai également essayé de suivre les questions. Et donc sur la première question qui concerne en gros l'évolution, je voulais mon premier point, c'est en fait, c'est pas tellement une évolution, mais c'est plutôt une manière de se positionner ou quelque chose qui serait de l'ordre plutôt du balancement ou du tiraillement ou du parcours d'une échelle de granularité qui me semble caractériser le champ ou le domaine dans lequel je travaille, donc l'analyse des interactions au sens large, c'est le fait d'avoir des objectifs qui peuvent varier et qui font bien écho à de nombreux articles du numéro anniversaire, avec d'un côté la volonté de rendre compte de ressources, donc la langue parlée, l'oral, et sur ce plan-là, c'est sûr qu'il y a eu des évolutions par l'introduction de la vidéo, le fait que de plus en plus les données donc sont vidéo et que on prend en compte des ressources de plus en plus variées. Luca rappelait le toucher, par exemple. Donc ça, c'est un premier type d'objectif, mais on peut aussi parfois avoir un objectif qui est plus lié aux pratiques. Cette fois, c'est pas les ressources en elles-mêmes, mais c'est plutôt la façon dont ces ressources sont mises en œuvre à l'intérieur, dans un contexte, local. Et cette approche-là, elle intègre le travail sur les ressources en termes à la fois d'agencement, des ressources variées, comment sont-elles agencées, et de bricolage, d'ajustement, de négociation. Et c'est là que l'on retrouve le travail sur la séquentialité et qu'on descend vers des granularités très, très, très fines. Et puis le troisième pôle, c'est celui du travail sur des situations, sur des organisations sociales ou des situations dans des types de rencontres. Et là, je dirais, c'est plus un travail sur des routines, des modes de faire, des types de contributions spécifiques ou représentatifs, avec la dimension enchaînement tout fait ou le préformé. Par exemple, les interactions commerciales, les visites guidées, les consultations médicales, etc. Et donc, il y a ce parcours. C'est pas vraiment une évolution, c'est un parcours. Hein, c'est quelque chose qui se... un balancement, je dirais. C'est pas forcément un tiraillement, mais un balancement. Pour les évolutions à proprement parler, la première qui me semble vraiment très, très importante dans ce que j'ai vécu de ce domaine de recherche, c'est la vidéo. Mais je ne vais pas spécialement développer ce point-là. Ça renouvelle complètement le rapport au terrain, puisqu'on arrive avec sa vidéo. Ça renouvelle le type de données, ça renouvelle les questions. Donc c'est quelque chose qui a eu une importance très grande. Le point que je voulais plus développer, c'était les exigences de plus en plus grandes, ça a déjà été un petit peu dit, les exigences de plus en plus fortes à la fois sur la qualité des données et sur la mise à disposition des données. Alors, ça fait écho à ce que disait Sonia Branca. Je ne vais pas développer vraiment ces corpus, mais c'est certain que c'est un apport énorme. C'est certain que la France a rattrapé son retard sur ses corpus. C'est certain que l'on ne peut plus dire que les chercheurs sont assis sur leurs données, comme on l'a entendu si souvent. Mais en revanche, il y a des contreparties qui sont assez importantes et qui restructurent, je trouve, beaucoup la façon de travailler et les questions. C'est d'une part le temps passé pour faire ces corpus qui soient partageables et le coût que ça représente en termes de transcription, standardisation, documentation, les métadonnées, etc. Et du coup, ça s'accompagne d'une forme de partage des tâches. En tout cas, moi, dans ma propre expérience, ça fait que je ne peux quasiment plus transcrire mes données. Parce que, justement, c'est quelque chose qui est trop exigeant maintenant et que donc l'expérience complète du terrain jusqu'à l'analyse, c'est quelque chose qui a tendance à se perdre parce que c'est disséminé entre des collectifs, disons. Et puis, la troisième conséquence que je vois, c'est le fait que certains types de données, donc certains types de situations, certaines questions ne sont plus... produisent des corpus qui ne seront pas partageables de toute façon, donc on ne pourra pas mettre sur Internet, et qui donc peuvent être considérés comme non valables. C'est-à-dire, bien que la recherche soit importante sur des sujets très délicats, sur des sujets très sensibles, bien que la recherche soit importante, et peut-être parfois c'est les plus importantes, on va avoir des difficultés à faire entendre l'importance de ces recherches et etc. Donc voilà, ça c'est un point qui me semble, enfin une chose qui a énormément changé dans les 20 dernières années. J'insiste sur les aspects négatifs, évidemment il y a des aspects positifs. Après je voulais passer donc sur la question 2. Je voulais en fait en venir à parler à partir du projet sur lequel je suis en train de travailler majoritairement en ce moment, qui est un projet sur les interactions entre les personnes en migration, enfin qui sont dans des procédures de demande d'asile, et les services de santé en France au cours donc de tous ces documents qu'ils doivent faire pour leur demande d'asile. Et par rapport à ce travail, il y a trois points que je voulais reprendre. Le premier point, ça concerne le numérique. Avec une autre entrée, donc on en a parlé, c'est très bien développé, c'est très clair, je ne vais pas reprendre ces points-là, mais c'est plutôt le fait que même dans des contextes où le numérique n'est pas a priori central, ou même il est a priori absent, c'est-à-dire le moment où une personne qui demande l'asile doit rencontrer un médecin pour remplir un document, en fait, il est là, le numérique est là, parce que souvent le dossier du patient est numérisé, donc il y a l'ordinateur. Souvent, on va utiliser Google Trad pour se comprendre avec la personne, donc à nouveau, on va faire référence à l'ordinateur. Les procédures, souvent on voit les soignants qui doivent vérifier des procédures parce qu'elles sont tellement complexes qu'ils ne les connaissent pas. Et ensuite, il y a une autre implication aussi, on le retrouve, c'est le fait que souvent les personnes qui font les demandes d'asile ont certaines démarches qu'elles doivent faire par Internet. Ce qui fait qu'il faut donc trouver des endroits, ils ont à trouver des endroits, donc il faut mettre en place des endroits où ils vont avoir accès à Internet, à des ordinateurs, etc. Donc c'est une autre manière d'aborder cette question du numérique. Les deux autres points que je voulais reprendre, c'était... le premier, c'est moi ce que j'appelle les obscurités du consentement éclairé. C'est le fait que dans ce projet, Rémi, là, ce qu'on est en train de développer, c'est un projet qui a une dimension terrain très importante avec un vrai engagement des soignants, donc santé mentale, santé somatique, travailleurs sociaux, etc., qui ont été d'accord pour être enregistrés, etc., qui sont vraiment partie prenante, avec qui on travaille sur les données. C'est un projet qui a une dimension formation à laquelle aussi ils participent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les soignants, pour les interprètes? On a cette question du consentement éclairé des personnes qu'on va enregistrer. Et donc, là, c'est vraiment une question. Je n'ai pas de réponse là-dessus, hein, mais c'est le fait que même dans ce cas-là, où ça marche d'une certaine manière très très bien, on a cette question de qu'est-ce qu'on fait signer à la personne qu'on enregistre. Et par exemple, on a un enregistrement, c'est ce que j'avais prévu de passer, mais bon, c'est pas possible au niveau du temps. Ou par exemple, on passe 11 minutes 39 pour expliquer le projet et jusqu'à ce que la personne signe. Donc il y a 4 minutes et demie d'explication du projet et ensuite il y a toute une discussion. Et on a une insistance très très forte mise par les soignants sur le fait que la personne n'est pas obligée. Donc ça prend vraiment un temps très très long, donc les gens jouent le jeu. Et bon, là l'exemple que j'avais, la personne finit par dire oui, d'accord, du fait que ça ne peut pas me nuire et que vous-même vous acceptez, je signe. Mais il reste pour nous vraiment la question de à quoi cette personne dit-elle oui ? Qu'a-t-elle compris de ce qu'on veut faire, etc. Donc ça, c'est un des points, cette histoire de consentement éclairé. Et puis le deuxième point que je voulais mentionner par rapport toujours à ce projet, c'est d'autres exigences aussi auxquelles on est confronté, et puis aussi des directions dans lesquelles on a envie d'aller d'une certaine manière, c'est le fait de sortir des laboratoires. Là, c'est plus le côté terrain, mais c'est plus le côté rendu des résultats de la recherche ou explication de la recherche, montrer ce qu'on fait dans nos recherches. Et quelque chose qui est de l'ordre d'une relation au grand public. Comment est-ce qu'on montre ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on... On le met en forme, et là, dans le cadre de notre projet, on a inventé une installation performance qui va avoir lieu ce soir d'ailleurs, qui vise à essayer de faire vivre au public quelque chose de l'expérience d'une personne qui se retrouve dans une situation où elle doit remplir des documents qu'elle ne comprend pas et où on lui parle une langue qu'elle ne comprend pas, donc une sorte d'expérience. Et donc on est très engagé dans ce développement de ces choses-là, mais en même temps, on verra comment ça se passe, hein, puisque c'est aujourd'hui, mais ça pose quand même aussi la question de la place, donc là, en l'occurrence des migrants. On fait ça pour essayer de déconstruire cette catégorie de migrants, que les gens voient par exemple que ce sont des personnes qui vont être engagées dans une interaction et qu'ils vont pouvoir percevoir des difficultés que ces migrants rencontrent, mais en même temps, on les instrumentalise d'une certaine manière. Enfin, tout ce questionnement-là qui est quand même lié, je trouve, aussi au fait qu'on est de plus en plus censé faire des choses qui ne sont plus strictement académiques, mais un petit peu sortir de ce domaine fermé. Voilà les points.
Très bien, merci beaucoup. Donc, maintenant...
Donc merci beaucoup à vous quatre. Donc maintenant nous donnons la parole au public pour des questions, des remarques.
Bon, merci beaucoup pour vos interventions. Elles sont extrêmement riches et complémentaires. Je voulais rebondir sur quelque chose que j'ai retenu en entendant vos propositions. C'est ce que je ressens comme des injonctions assez contradictoires, finalement, qui sont formulées à l'égard de la communauté des chercheurs sur cette question des corpus. Parce qu'il me semble que si on les regarde sur le versant de leur construction, de leur constitution, on est amené à reconnaître la très forte implication des chercheurs sur les terrains, les présupposés théoriques qui guident la collecte des données, les précautions éthiques, la vigilance à des enjeux sociaux qui, bien sûr, structurent et configurent nos rapports au terrain. Donc on est sur quelque chose qui montre que le chercheur fait corps, finalement, avec les corpus qu'il construit. Et puis si on est sur le versant plutôt de l'usage des corpus, on entend des choses comme ce que tu disais, Véronique, sur la distribution collective du travail. On est sur la question de l'accessibilité, de la mise en patrimoine, de l'accès public. On a des injonctions de nos organismes qui financent la recherche sur le data management plan. On doit donner en quelque sorte accès à ces données-là. Et donc finalement, on est sur finalement un paradigme qui est très à l'opposé de celui de la constitution des données, qui est celui de l'accès public et de la distribution collective. Et je n'ai pas la solution à ça, mais ça m'intéressait d'avoir peut-être votre point de vue en fonction des expertises qui sont les vôtres. Comment est-ce que finalement on se sort de cette contradiction ? Est-ce qu'il y a des alternatives ? Est-ce qu'il y a des manières de naviguer sur ce terrain-là ?
Oui, bon, je veux bien dire quelque chose. C'est pas vraiment répondre, parce que comme tu le dis, il n'y a pas vraiment de solution. Mais en tout cas, la façon dont dont je le fais et dont à Icare les choses finalement se sont peu à peu mises en place, c'est le fait qu'on a passé 25 ans pour monter la base de données CLAPI, qui est une base de données qui met à disposition des données, que ça a occupé, je ne sais pas, par exemple pour moi-même, la moitié de mon temps de travail pendant ces années, mais que parallèlement, au bout d'un moment, on se rend compte qu'il faut quand même conserver une partie de son temps de travail, de son énergie, de son envie, de ses questions, pour des choses qui sont autres. Alors, essayer de les faire reconnaître comme choses importantes, par exemple, ce travail sur les migrants, là, j'ai pris cet exemple, on ne mettra jamais les données sur Internet, ça ne sera jamais dans la base de données CLAPI, etc. Ça nous occupe maintenant énormément, c'est la chose qui nous occupe le plus, donc c'est une sorte, de navigation. Moi, je le vois comme ça, je n'ai pas de meilleure solution.
Oui, en fait, effectivement, il n'y a aucune solution. Moi, je pense qu'il y a une exigence qu'il en est. Effectivement, on va tous sur les terrains maintenant avec des petits outils, on enregistre, on fait parfois des petits bricolages d'espions qui posent de vrais problèmes d'éthique, de morale et légaux. Et de toute façon, on n'est jamais dans les clous. Je discutais, même au niveau de la CNIL, ils sont foutus de nous dire jusqu'où ça commence, où ça finit. Donc, dans tous les cas, on risque, c'est toujours, la réponse est toujours la même. 300 000 euros d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Mais de cette difficulté dans laquelle on est, il n'est quand même aujourd'hui une exigence que l'on retrouve de plus en plus, c'est-à-dire que les gens se positionnent par rapport à leur terrain et par rapport à leurs objets d'études, en particulier quand ces objets sont des sujets. C'est-à-dire qu'il y a quand même la volonté que systématiquement, on ne fait rien qui puisse porter préjudice. Moi, j'ai fait une thèse il y a 20 ans sur les discussions dans les bistrots des personnes alcoolodépendantes. J'ai enregistré clandestinement pendant un an en allant dans le bistrot avec un sac. J'avais un micro caché dans un stylo. Voilà, c'était un micro caché. C'était formidable. C'était du James Bond. Quand j'ai soutenu ma thèse, on m'a dit, ah, quelle méthodologie exemplaire. Deux ans après, c'était illégal, quoi. Fallait que j'aille. J'ai soutenu sans problème en 2000. Hein. Je fais beaucoup plus jeune que je ne parais. Mais voilà, aujourd'hui, voilà. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que je trouve que les gens se positionnent maintenant sur leur terrain, ils expliquent ce qu'ils ont voulu faire, ils expliquent qu'il n'y a pas un cadre. Ceux qui n'expliquent pas en considérant qu'il y a un cadre très simple et qu'il n'y a qu'à foncer, c'est que soit ils ont vraiment beaucoup de chance, ils sont sur des objets qui sont vraiment très confortables. Mais voilà, et du coup, il y a une vraie discussion entre les chercheurs et entre les objets. Et je crois que ça nourrit justement aussi nos disciplines. Et nos postures. Dans les soutenances de thèse, par exemple, c'est très clair. D'une manière ou d'une autre, la question arrive toujours maintenant, même si elle n'est pas posée en ces termes.
Ah, oui. Très rapidement. Moi, j'ai participé il y a quelques temps.
Ah, d'accord. Il faut faire parler la salle quand même.
Non. Mais
on te donnera
une
phrase.
Non, mais après, je suis là.
Il y a un micro là-bas. Il y a un micro là qui se balade.
Une petite remarque pour Luca Greco. J'ai beaucoup d'admiration pour Haraway en ce qui concerne les gender studies. Elle a certainement fait progresser les études de genre dans un sens non dogmatique critique. Mais j'ai un problème avec le Cyborg Manifesto. Vous semblez très attiré par cela, les rapports entre l'animal, l'être humain et la machine. Je me demande, alors ma question, il me semble qu'il s'agit de retombées de la science-fiction de 2001, de Solaris, Stanislas Lem, à 2001, Odyssée de l'espace, sur l'anthropologie. Qu'est-ce qu'on peut en faire dans un sens anthropologique ? De ce cyborg. Pour polémiquer un peu.
Non, mais je ne prétends pas ouvrir un débat anthropologique sur le cyborg. J'ai dit qu'il y a effectivement beaucoup de travaux en ce moment sur cette question, que l'on questionne beaucoup les frontières entre l'humain, l'animal et la machine, et qu'il y a effectivement des travaux en sociolinguistique, en anthropologie du langage, qui prennent en compte ces nouveaux types de sujets. Et il me semble que, qu'il faut en tenir compte et que ça présuppose aussi l'arrivée de ces nouveaux sujets, d'autres types de méthodologies, donc d'autres types de données. Voilà.
Oui, c'est un autre sujet, ben, un peu sur ce sujet, donc peut-être, soit pour Lucas, peut-être François, c'est peut-être plutôt un commentaire, mais la manière dont cette question devient d'actualité dans notre vie professionnelle et aussi quotidienne au Canada, d'où je viens, où je travaille, c'était venu de l'anthropologie sociale, mais aussi énormément de soucis entre les environnementalistes et les revendications autochtones, donc les Premières Nations. Souvent sur le même terrain, parfois pas tellement. Il me semble que bon, la revendication est en partie pour dire, ben, votre obsession avec le sujet individualisé, ça c'est votre problème culturel, nous on voit les choses autrement, mais aussi parce que notre vie littéralement en dépend. Et je crois que là où c'est en train de nous mener, c'est non seulement sur un questionnement sur est-ce qu'on fait une distinction entre ce qui est humain, ce qui est non humain, où est-ce qu'on met la ligne, mais aussi sur l'idée d'action sociale et de subjectivité. Alors là, il y a beaucoup de gens qui sont inspirés par Latour, personne ici l'a mentionné, mais l'idée, dans un sens, remonte plus loin dans d'autres formes de pensée sociologique, et donc c'est la question à savoir dans quelle mesure est-ce qu'on a aussi peut-être mis trop l'accent sur le locuteur comme acteur autonome, mobilisant des systèmes autonomes et non pas dans un système assez complexe d'interdépendance avec des frontières qui sont floues et incluses sur l'action.
Je pense que il y a deux choses. Il y a d'une part effectivement une interrogation du sujet conçu comme une entité individuelle, mais ça vient de loin, c'est-à-dire que moi je pense que déjà le concept de participation tel qu'il a été forgé par Goffman et par les anthropologues linguistes permet de repenser le sujet comme étant un individu, une entité discrète dans l'espace de socialisation, au profit justement d'une multiplicité à l'intérieur de laquelle les catégories de locuteurs et d'interlocuteurs elles sont complètement éclatées. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il y a aussi les apports, effectivement, en philosophie des sciences et de Bruno Latour sur penser effectivement les objets, les artefacts comme étant des agents. Donc donc ça c'est, si tu veux, ces deux tournants permettent de repenser l'individu, mais il y a aussi quelque chose qui se fait, ça reprend aussi la remarque de Véronique Traversot sur le sujet aussi en tant qu'ethnographe, c'est-à-dire que les nouvelles façons de travailler à l'université nous obligent à repenser l'ethnographe comme étant un individu isolé, c'est-à-dire qu'il y a maintenant plusieurs personnes qui font du terrain, donc il n'y a plus seulement une personne qui fait du terrain, et aussi toute la chaîne temporelle de la recherche, du terrain jusqu'à par exemple la présentation des résultats en passant par la transcription des analyses, est complètement interrogé par les collectifs de travail qui sont de plus en plus présents et qui sont aussi déterminés par de nouvelles façons de faire la recherche. C'est-à-dire que les projets éclatent complètement la conception d'un chercheur comme un individu isolé.
Oui, Josiane. oui, je voudrais juste faire le pont avec ce qu'a dit Monica pour partie, une remarque qu'avait fait Sonia, et puis le petit débat terminal entre Marianne Pavot tout à l'heure et Ruth Amoussi. Et aussi un pont avec la question que posait Filietas, moi je vais arriver, bon. Mais Laurent Filietas sait très bien aussi qu'il y a des terrains, il existe des terrains dans lesquels les contraintes du terrain sont telles que, par exemple, on ne peut tout simplement pas enregistrer. Hein, on n'a pas le droit. Dans le réseau Langage et Travail, on a été souvent confronté à ça. Les lieux de travail sont des lieux de droit privé, donc ce que tu as fait, c'est impensable, totalement impensable d'avoir un micro caché. C'est totalement impensable. Enfin, c'est même pas imaginable. Donc tout se négocie. Hein, l'accès au terrain se négocie. C'est ce que les sociologues nous ont appris il y a très très longtemps, mais donc ce qu'on avait vu, et Lou, c'est grâce à toi que je le dis, parce que j'avais oublié cet article, on avait montré que dans ces situations particulières où éventuellement on ne peut pas enregistrer, où éventuellement on doit revenir à la prise de notes, et je trouve que j'ai toujours enseigné à mes étudiants de savoir prendre des notes, c'est la première base du linguiste, hein, et d'écouter, ce qu'on avait montré justement, c'est que, comme pour d'autres raisons avait montré Christine Develotte et Marianne Pavot, l'analyse du langage en situation de travail oblige à repenser, non pas à annihiler, non pas à jeter par-dessus la barrière, mais à repenser des catégories un peu fondamentales de la linguistique, alors pour d'autres raisons et avec d'autres conséquences. Nous en particulier, c'était le fait que, ce qu'avait très bien montré Broncard, l'action langagière, l'action non langagière sont totalement intriquées, totalement, complètement. On ne peut pas sortir le langagier de l'écologie, c'est-à-dire de l'outillage, du bruit, de la chaleur, des conditions de travail. Au début, moi, j'ai beaucoup travaillé dans les usines à la chaîne. Donc là, je veux dire, si tu prends simplement ce que disent les gens, il ne se passe pas grand-chose en plus, à part passe donc, ouais, bon. Puis il y a des grands silences entre-temps. Moi, c'est ça qui, au départ, m'a frappé. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette pratique langagière? Les gens se causent, mais d'une façon un peu bizarre. Et donc, ça nous avait amené à montrer que tout ce qui est l'outillage technologique, les objets, bon, à une époque, on a nous aussi lu Bruno Latour, même si je ne partage pas du tout son idée de la gentilité des objets, mais qu'en tous les cas, tout cet univers technologique, oui, faisait forcément partie de la description, et qu'on ne peut pas, et du coup, extraire le langagier, et que du coup, par exemple, la notion de corpus éclate totalement. Donc on avait écrit un article là-dessus avec Bernard Gardin. Il n'y a pas de corpus fini, clos, enregistrable. Donc il y a des situations, pour terminer juste ça, pour revenir à ce que disait Laurent tout à l'heure, à cette contradiction, il y a des objets de recherche ou des situations de recherche ou des terrains qui font que cette contradiction entre la volonté de donner accès à nos données, le fait de les construire proprement, c'est une véritable contradiction. Hein. Et je te remercierais, Véronique, pour ce que tu nous as dit au final là, sur ce que vous avez proposé, parce que nous on a toujours pratiqué ce qu'on appelle dans le langage syndical la restitution aux acteurs, ce qui est obligatoire, hein. On ne négocie pas une entrée dans un lieu de travail sans restituer aux acteurs, mais on n'avait jamais pensé honnêtement à ce que, enfin jamais on a pensé à ce que vous avez proposé, et je trouve que c'est absolument vraiment c'est quelque chose de complètement magique, et je te remercie, dommage qu'on ne soit pas ce soir tous à Lyon pour aller voir ce qui va se passer.
La discussion porte sur les terrains, les acteurs, etc., le problème du corpus, mais il y a une question qui était plus classique il y a quelques dizaines d'années, où c'est la question mais pourquoi tel corpus plutôt que tel autre? Pourquoi tel terrain plutôt que tel autre? Et moi, ça m'a toujours frappé, c'est quand même qu'il faut questionner aussi un peu l'institution. C'est-à-dire, quand j'ai proposé, je me rappelle, le numéro spécial sur le discours religieux, j'étais bien intrépide. D'abord, j'ai pas rencontré forcément un grand enthousiasme, mais on m'a laissé faire, ce qui montre bien. Mais après, je me suis aperçu qu'ils avaient raison, en un sens, parce que trouver des gens sur ce sujet, c'est pratiquement impossible. J'ai dû retrouver une Brésilienne, un Finlandais, enfin bon, parce que on a couvert le journal, le religieux, évidemment, il fait l'actualité, les guerres, les conflits, etc. Mais en même temps, c'est vrai que la culture scientifique des chercheurs en analyse de discours n'est pas du tout portée là-dessus. Et donc, il y a une sorte de vide qui pose problème. C'est la question de la relative cécité de l'institution par rapport au monde dans lequel elle est. C'est-à-dire qu'il y a quand même des tas d'autres sujets qui effectivement sont des problèmes massifs. Par exemple, ben, la question du sport, hein, c'est quand même quelque chose de tout. L'économie, enfin l'économie ça commence. Mais il y a beaucoup de sujets qui sont massivement importants dans nos sociétés et finalement il n'y a très peu de travaux. Et donc c'est... Alors évidemment le paradoxe c'est qu'on ne peut pas travailler sur tout. Alors comment peut-on réguler cette espèce de difficulté qu'il y a que les chercheurs viennent de traditions, de formations, de cultures, de présupposés théoriques, etc. Mais en même temps, le monde impose des exigences. Alors comment est-ce qu'on articule les deux? Ça, c'est le problème.
Je vais juste donner un élément d'expérience parce que, sur le numérique. Parce que je suis aussi vice-président de mon université délégué au numérique. Et je suis au bureau national du vice-président des universités déléguées au numérique, ce qui fait un sigle imprononçable, mais ce n'est pas grave. Je suis le seul en LLASHS, tous les autres sont des informaticiens, des mathématiciens, etc. Sur le numérique, j'entends souvent dire, oui, c'est un sujet à la mode, nous, il y a d'autres choses, c'est un sujet qui est périphérique, etc. Oui, mais c'est pour le rapport à l'institution, ça ne se résume pas à ça. Mais moi, je crois aussi qu'on doit y aller. Si l'argent est dans le numérique... On doit aussi aller le chercher pour permettre justement aux gens qui ne travaillent pas sur le numérique de le faire. Je crois que l'une des erreurs que nous commettons parfois en LLASHS, c'est de ne pas aller sur des sujets qui sont à la mode pour des prétextes divers et variés, parce qu'il faut y aller, prendre la cagnotte, la prendre aux autres, parce que des fois, enfin moi la semaine dernière j'étais à la région Occitanie, des centaines de milliers d'euros sur des ruches connectées ou des trucs qui clignotent au bout d'une clé à molette, voilà, j'avais envie de pleurer, et rien qui venait de nos disciplines. Et pourtant, ils nous demandent. Voilà. Donc je crois que le rapport à l'institution, il dessine des objets, des fois des contraintes, et qu'on doit y aller, mais que justement, cette manne financière doit nous permettre aussi de nous organiser pour, on parlait tout à l'heure de syndicalisme, mais c'est une autre forme voilà, d'intervention politique aussi qui est la nôtre, dans notre institution, et doit nous permettre aussi de capter de l'argent pour en faire autre chose qui n'est pas que le numérique. Voilà. C'était c'était une réaction à ce que tu disais, c'est pas forcément une réponse, mais voilà, je trouve que c'est important.
Peut-être, Dominique, il est plus facile de convertir un bon théologien en analyste discours qu'un analyste discours en théologien. Non, mais je dis ça très sérieusement, c'est-à-dire le problème se repose si on veut travailler sur le discours médical, si on veut travailler, enfin, quel que soit le domaine. Moi, j'ai quelquefois eu des problèmes avec des sociologues qui décidaient de travailler sur l'école, par exemple, sur l'enseignement de l'orthographe. C'était d'excellents sociologues, mais ils ne comprenaient rien au système orthographique. Et donc, c'était un petit peu embêtant de diriger des thèses dans ce domaine. Voilà, donc, la question plus générale que je voudrais poser, c'est celle des rapports entre l'analyse de discours et ses terrains.
Je voulais compliquer un petit peu la dernière remarque de Sonia Branca en disant que la question du rapport entre une enquête et ses terrains comporte une dimension temporelle. Et cette dimension est à prendre en compte de façon aiguë quand il s'agit de corpus, puisque la question de la pérennité du corpus, à mon avis, se pose dès qu'il y a corpus. On se demande pourquoi il est, pour combien de temps, pour quelle échelle de traitement, pour quelle durée. Et donc il y a tous ces problèmes d'échelle superposés qui sont intégrés autour de cette notion de corpus.